Ribine, le magazine qui explore, qui visite, qui voyage et qui découvre. Parcourez les chemins de traverse en suivant nos micros.
Jeune fille de 15 ans, belle comme une rose. Elle a eu un enfant, personne n'en est la cause.
À la fin du mois de septembre 2025, le rappeur et comédien breton Christophe Lemen, alias Chris Men, et l'équipe du théâtre Piba étaient en résidence au Terrain Blanc à Pénars afin de donner jour au spectacle Bastard. Je me suis glissée dans la salle de spectacle le temps de répétition pour capter des moments de cette création collective, sensible et singulière. Bastard a pris son temps et des détours à travers époques et pays pour se tisser. Si l'on tend l'oreille, on en trouve les prémices 4 ans auparavant, dans le cours de discussion entre Chris Men et des personnes âgées habitant l'EHPAD de Tréguier. Durant ce séjour étiré sur 3 années, Chris Men imaginait poursuivre sa collecte de chansons traditionnelles bretonnes, ses premières amours. Mais non, pas de chansons. Pas de chansons, mais des histoires, des récits de vie, d'autres vies, qui dansent et naviguent, certaines bancales aussi, à trous, des vies bastardes, d'enfants illégitimes, de filles mères et de pères inconnus. Des histoires par éclats sonnants, vibrant la paroi de cloches formant écho. Bastard se trame depuis longtemps sans doute, par-delà l'écriture, avant la naissance et après, dans l'enfance même, les silences, dans le désir d'apprendre le breton auprès des vieux et par les chansons. Elle se coule dans la guerze, le canadiscan, le rap, le human beatbox. Une voix et d'autres dedans bâtissent entre elles des ponts. Dans Bastard, les voix, les histoires sont mêlées, les langues aussi, français, breton, langue des signes. Plus loin, jusqu'au froid glacial de l'Arctique, anglais, norvégien, gven, toutes se croisent et s'éclairent, creusent le secret des générations passées, chantent son poids, l'allègent, tirent et nouent les fils d'une vie peuplée.
Bonjour.
Chris Men.
C'est un spectacle qui parle du fait de grandir dans une famille monoparentale. Je sais pas comment, j'arrive toujours pas à bien présenter, à bien pitcher pour que ce soit pas trop, pour que ce soit sexy comme, comme spectacle. Non, mais...
On m'a donné une chambre, la chambre numéro 5 de la résidence Andouar. Il y a une étiquette à mon nom sur la porte. C'est une résidence pour les gens de passage, ceux qui font des séjours courts comme moi ou qui sont là en attendant qu'une place se libère. J'avais peur en entrant. Ma peur s'est vite dissipée. J'ouvre la porte coupe-feu. La première dame que je rencontre me dit « Oh monsieur, vous êtes beau. Je suis le plus jeune résident. Le Benjamin de l'EHPAD. J'ai du succès avec les mamies. Je vais être bien ici. »
Moi je viens de la musique. Alors, j'ai commencé par la musique traditionnelle. Après je me suis intéressé. J'ai eu envie d'écrire, donc j'ai fait du rap. Le rap m'a amené à m'intéresser au human beatbox. Le human beatbox m'a amené à m'intéresser aux musiques électroniques. Et puis en parallèle, ben, je suis comédien de doublage surtout. Je fais les voix pour les dessins animés, pour les films en breton. Et puis j'ai fait beaucoup de concerts. J'ai commencé à travailler avec le théâtre Piba depuis maintenant quasi 10 ans en tant que comédien. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que je faisais à la fois... comédien, je racontais une histoire et puis je travaillais aussi le son en même temps. Moi, ce qui m'a plu énormément dans le théâtre, c'est un vrai travail d'équipe où chacun a sa place avec un métier très différent. Puis la démarche de Théâtre Piba, c'est aussi du théâtre d'aventure. La compagnie aime se mettre dans des situations qui va faire que ça va bouger des choses en nous, quoi. Par exemple, la première pièce dans laquelle j'étais, c'était Dondevor. L'équipe est partie sur le bateau, le Pourquoi pas, de l'Ifremer. Et la pièce s'est construite par rapport à cette expérience-là, quoi. Et Bastard, c'est parti aussi d'une première immersion, qui n'était pas sur un bateau cette fois, mais dans un EHPAD. Et Thomas, le metteur en scène, m'a dit « Ouais, prends le temps, reste là-bas longtemps, parce que j'aurais pu aller juste pour faire un peu de médiation. » Et en fait, il m'a dit « Non, il faut que tu passes des nuits là-bas, il faut que quitte à être dans le dur, quitte à te poser des questions. Et en fait, c'est ça qui a fait aussi que j'ai pu créer une complicité avec certaines personnes. Et il y a des choses qui se sont révélées, en fait.
Il faudrait un rassemblement des handicapés et faire la révolution.
Hein? José.
Parce qu'il m'a...
José, elle est de gauche comme moi, alors on s'appelle camarade. Un monsieur se plaint dans le couloir. Elle le rassure, lui explique que s'il est attaché, c'est pour son bien. Mais elle voudrait faire une manif, une banderole pour libérer les handicapés. Moi, j'ai toujours été fasciné par les vieux. Je sais pas pourquoi. Quand on est jeune, les vieux, c'est comme s'ils ne faisaient pas partie du même monde. Ils ne nous ressemblent pas vraiment. Ils ne marchent pas tous sur leurs deux pattes. Souvent même, ils ne parlent pas le même langage. Mes grands-parents à moi, quand ils ne voulaient pas que je comprenne, ils parlaient une langue secrète. Jeannette, ma grand-mère, me disait « Le breton, c'est trop dur à apprendre. Tous les mots se ressemblent. Œil se dit « lagat » et souris se dit « logot ». J'insistais pas. Adolescent, je me suis mis à apprendre leur langue. Mais c'était pas facile. J'allais au Pardon, je quittais mon HLM, j'allais au Pardon, au Comice agricole, pour écouter, pour tendre l'oreille. J'essayais de voler quelques expressions et façons authentiques de prononcer. Je participais aux veillées de chansons. J'enviais tellement les autres qui disaient « Je vais vous chanter une chanson que j'ai apprise avec ma grand-mère. » J'aurais bien aimé pouvoir en dire autant, ou presque pouvoir dire « Je vais vous chanter une chanson que j'ai apprise avec une grande tante. » Mais non, personne ne chantait dans la famille. D'autres disaient avec fierté « Je vais vous interpréter une chanson que j'ai collectée auprès de Madame Machin, de Poule Machin. » Ça aussi c'était classe, presque autant. Ils étaient allés à la chasse aux chansons, eux n'étaient pas revenus bredouilles. Je chasse les chansons, en breton. C'est pas simple parce que les chanteuses et chanteurs traditionnels sont une espèce en voie d'extinction. À défaut, je traque les histoires.
Il y a eu, il y a eu ces personnes que j'ai rencontrées, et puis
Claude,
une dame qui, comme ça, qui avait Alzheimer et qui m'a dit « Ah, tu sais, moi, j'ai pas de père. » Et ça, c'était vraiment dans une conversation où elle a changé de sujet quasiment à toutes les phrases, quoi. Et je me suis dit, quand je serai vieux et que je serai à l'EHPAD, est-ce que ça va être un sujet pour moi qui ai grandi dans une famille monoparentale, tout seul avec ma mère, avec ce tabou-là, parce qu'on n'en parlait jamais. Et je me suis dit, cette dame-là, elle parle de ça d'un coup, comme ça, en plein milieu.
J'ai eu envie d'en apprendre plus sur Claude. Quelle était sa vie?
Est-ce que ça va être une question qui va...
J'ai essayé de lui demander, mais c'était trop compliqué pour elle de répondre.
Tourner dans ma tête jusqu'à la fin, quoi.
La plus longue phrase qu'elle médite, c'est « Ne me pose plus de questions. C'est mieux pour moi. » J'ai arrêté de poser des questions. Moi qui voulais chasser des chansons et collecter des histoires, j'ai devant moi une chanteuse sans parole et des histoires sans sens. J'aime passer du temps avec elle, être là au moment présent. Elle dessine un papillon. C'est sa sœur, le papillon, elle me l'a bien expliqué. Il y a un autre papillon à côté. Il peut pas voler. Elle sait pas pourquoi. Moi, j'ai pas de père, elle me dit. Moi aussi, j'ai pas de père, je lui réponds. Et puis elle se remet à chanter. Claude et moi,
Claude Amé,
on n'a pas de père.
Qu'est-ce que t'as, débit? Où tu rendis qui kemen, c'est rond, et tu rends gano, en agro papillon.
Je viens le découvrir comme ça, entre un papillon et une chanson. J'ai l'impression d'être relié à elle par le même mystère.
Que quand j'étais à l'EHPAD, j'ai appris la mort de la mère de mon géniteur, donc ma grand-mère paternelle, si on veut, pour faire simple, et que son dernier mot, apparemment, ça aurait été. Enfin, elle a prononcé mon prénom avant de mourir. Et du coup, ça m'a. C'était une révélation assez étrange. Ça m'a confirmé qu'il fallait que je travaille dans ce sens-là aussi, quoi, que j'en sache plus. Et j'ai commencé à interroger à la fois les anciens sur ce tabou-là, des familles monoparentales, des femmes qui avaient un enfant seul à l'époque. Ça m'a appris aussi pourquoi c'était tabou, pourquoi dans ma famille on n'en parlait pas, que en fait c'était pas juste ma famille, que c'était un tabou millénaire, quoi. En fait, on n'en parle pas depuis la nuit des temps, ça reste un sujet. Avoir un enfant hors mariage, ça fait longtemps que c'est un tabou et que c'est une insulte, bâtard.
Chantal, dos des blavés au catéchis. On a un gain dans ma famille au chaud, mais crédit est doué. N'a respondu d'aille. Non, tu sais, mémé, moi, je suis comme la Vierge Marie. Il est arrivé là, comme ça. Good. Alors après, elle n'en a plus parlé. Elle ne m'en a pas parlé. Mes grands-parents ne m'en ont pas parlé. Mesut cause, pour moi, c'était normal. J'ai eu une enfance heureuse.
Mais ouais, normal.
Pleine d'amour. Je n'ai manqué de rien. L'un a garanti. Ne ce qui manque que mon bédine.
Première fois que j'écrivais quelque chose pour le théâtre, moi j'ai juste écrit des chansons pour l'instant et en breton. En tout cas, une chose était sûre, c'était que je voulais parler simplement, que ce soit pas de la poésie trop imagée en fait, pour que ce soit simple, simple à comprendre, simple dans la langue aussi, parce que tout de suite j'ai voulu écrire en breton et en français. À la base, moi, je chante en breton et j'écris en breton. Donc voilà, le but, c'était de présenter une pièce en breton. Mais j'avais envie de le faire en français aussi parce que j'avais envie de ce rapport direct aux gens qui ne le parlent pas, à ma mère aussi, aux gens de ma famille, quoi, et puis aux copains. J'avais envie de leur parler en français aussi. Et puis, après, c'est aussi... Une pièce sur la culture, sur pourquoi on a envie d'aller collecter des vieux, comment peut naître cette envie aussi, quoi. Enfin, c'est une supposition, mais pour moi, peut-être que le mystère qu'il y a pu avoir dans mon enfance de ne pas connaître une partie de mes vieux, on va dire, c'est peut-être ça qui m'a donné envie d'aller chercher des chansons traditionnelles, aller voir des anciens pour apprendre des chansons. C'est une supposition, j'en sais rien si c'est...
Un panneau m'intrigue près des toilettes de la résidence Anatole Lebras. Il indique la direction du pôle Nord. Parfois, il suffit d'un détail, un petit signe qui nous dit quoi faire. Celui-là m'aspire.
Thomas Cloarec, metteur en scène.
Eva Claude.
Là, exactement là ou dans la même ligne.
Alors au départ, le projet Bastard était déjà en cours.
Melraine Laviec, interprète en langue des signes française et comédienne.
Et donc Christophe a vu la pièce Enchugwen avec Tumette Léon, la comédienne, et moi en comédienne-interprète. Et donc, il m'a demandé de participer à son projet dans l'idée de rendre accessible, que les sourds puissent suivre l'histoire et avoir toutes ces émotions, etc. C'est aussi, je tiens quand même à le préciser, Théâtre Piba, à partir du moment où on s'est dit, bon, maintenant, on a montré qu'on est capable d'intégrer une artiste sourde et de rendre accessible grâce à, un peu, entre guillemets, le truchement d'une comédienne interprète. on doit pouvoir continuer à accueillir un public sourd, ce ne serait pas cohérent de s'arrêter là. Donc c'est un peu le service minimum, moi c'est ce que je dis. Quand il y a une interprète sur le côté de la scène, c'est comme un sous-titrage ou un surtitrage pour une pièce de théâtre dans une autre langue. J'avais pas envie d'être juste là pour interpréter de manière distante, en tout cas. En tout cas, ça fonctionne pas quand on est au théâtre, dans la mesure où c'est artistique et qu'on s'exprime pas. Christophe, il s'exprime pas de la même manière qu'à l'extérieur. Il y a des temps de parole qui sortent du quotidien. Et donc, forcément, je suis obligée, moi, de décider de qu'est-ce que je fais d'un jeu de mots, qu'est-ce que je fais d'une rime, etc. Et c'est là où, moi, ça m'appartient complètement. De créer, d'adapter. Et voilà, j'insiste beaucoup. La bascule entre interprétariat, interprétation et adaptation, c'est vraiment très différent. Et alors, la partie musicale et sonore, là, ça me traverse. Voilà. C'est pour moi de l'interprétation au sens, là, pour le coup, artistique.
Dans l'avion, il y a un grand blond bourré qui dort. Il est allongé sur toute la banquette. Il doit bien faire 2 mètres. Et il a les cheveux rasés sur le côté. Un bison.
Je dois le réveiller.
Il se réveille.
What are you doing here?
I am going to the North Pole.
Au point de Norvège, hein? Laudradin n'est que fier au veillant en disquenne de Zarviking. Askei de Skankador en dédié racan, agurjan de fucking disquenne de kamske fucking place et vide fucking legs. Rusté, hein?
C'est une brute. Mais il est assez drôle. Il me demande si j'ai des enfants. Je lui réponds que oui. Lui a une fille de 2 ans qui ne voit presque pas, presque plus. Qu'elle grandit sans lui. Je lui dis que moi aussi j'ai grandi sans père. Il me demande comment c'est de grandir sans père. Je lui dis, it's okay. Il me répond, don't say that. Il m'explique qu'il travaille comme grutier sur les cargos en Afrique. Il sort son téléphone de sa poche, me montre une photo. Je pensais qu'il allait me montrer une photo de sa fille, mais non. C'est une chouette hulotte. Elle s'est posée près de lui, en plein jour, au large du Sénégal. Bon.
Attends.
Donc au départ, moi je me suis basée sur le texte, mais j'avais besoin aussi de la voix de Chris Mayne. En fin de compte, c'est en travaillant, en étant à côté de lui, que le rythme me permet de sentir quelle durée va être ma phrase. En fait, c'est très instinctif quand même. Je pense qu'il y a des choses qui sont maintenant tellement intégrées. Quand je n'arrive pas à entrer par la voix de l'écriture, je vais basculer vers le son. Parfois, je vais devoir découper le texte en images. Je me dis, là, il y a un tableau, ici, un autre. Donc, je vais parfois dessiner. Enfin, dans ma tête, il y a des dessins, des éléments qui se mettent. Je visualise. Et puis, pour ça, je demandais à Christophe, alors, dans cette situation, quand tu parles là, de cet endroit, la maison, elle était comment? Quelle couleur? Vraiment, je veux avoir tous les détails pour être au service de sa pensée. Mais sa pensée visuelle, qu'il n'aura peut-être pas développée, lui, dans son texte. En gros, si on était un sourd ou une sourde et qu'on voulait l'exprimer, il y aurait forcément plus d'images. Donc je vais chercher dans lui, dans ce qu'il a vécu. Cet homme-là, il était grand comment? Il s'est tenu comment? Quand il s'agit d'être dans le corps d'une chouette, par exemple, je vais regarder des vidéos pendant des heures et je me... C'est pas du tout mental, hein. C'est vraiment de l'observation. Ah, si j'étais une chouette, comment mes ailes se déploieraient, etc. J'en profite pour rendre hommage à Éric Marchand. Donc, il le cite, puisque c'est lui qui lui a conseillé de réfléchir à l'animal totem qui lui correspondrait. Et donc, moi, volontairement, je décris Éric Marchand avec ses yeux bridés, ses moustaches, etc., son chapeau, parce qu'on a pris cette décision. Moi, je dis ça, et lui, il dit autre chose d'Éric Marchand. C'est pas une interprétation, voilà, exacte, mais c'est 2 choses de lui que Christophe voulait transmettre.
Bon, alors, faut que je vous précise, la chouette hulotte, c'est mon animal totem. Oui, je sais, avoir un animal totem, c'est un peu un truc de mystique. Mais un jour, un ami m'avait suggéré de réfléchir à mon animal totem. Quand je l'aurai trouvé, ça m'aiderait. On ne choisit pas son animal totem. Un jour, on se rend compte que c'est lui. J'ai cru au départ que c'était le chien. L'épagneul breton.
L'épagneul breton que je regarde après. Hein.
C'est après l'épagneul breton que je regarde Merrenf.
En fait, c'est comme si tu disais, toi, soit tu te tournes vers Merrenf pour lui dire l'épagneul breton, pour qu'elle fasse le signe de l'épagneul breton.
Ouais.
Soit, mais tu sais,
mais du coup, j'attends que tu le fasses.
Soit tu regardes Merrenf vers l'épagneul breton.
Ouais. En fait...
Vas-y, essaye, les deux.
On essaye d'abord, il le dit, moi je le fais.
Ouais.
Et on essaye pareil. Okay.
J'ai cru au départ que c'était le chien. Okay. L'épagneul breton. Mais non.
Alors maintenant, moi je pense que l'autre version, si tu la prends bien, elle est mieux.
Ouais.
C'est vraiment un chien. Et là, tu te tournes vers Maîtresse, tu dis, c'est un épagneul breton. Donc, parce que tu voudrais qu'elle fasse.
Bah ouais.
Je dis race bretonne avec les zéros qui pendent, là je le fais. Hein.
Ouais, ça va bien, ça va bien.
Mais lui, il a... Ah oui, vérifie, genre, tu l'as
lui,
bien fait.
Non, c'est pas ça. C'est que lui, il te précise. Toi, tu dis d'avoir un chien.
Un chien, ok.
Donc là, à ce moment-là,
j'ai cru au départ que c'était le chien.
À la limite, tu peux même le regarder, il te dit, c'est l'épagneul breton.
L'épagneul breton.
Voilà. C'est un épagneul breton.
L'épagneul breton, ouais. Voilà. Qui saute par-dessus la haie. qui remue la queue.
Bah ça, c'est chien. Donc,
qui part en courant.
Moi, j'ai commencé par le chant trad, vraiment trad, gavotte, a cappella, et c'est quelque chose que je... Enfin, voilà, c'est vraiment ma base. Alors même si, étrangement, en fait, moi, ado, j'écoutais pas de rap, je sais pas, il y avait quelque chose dans la rythmique et puis le fait de placer la langue à cet endroit-là, en fait, qui me plaisait. Et quand j'habitais au Québec, et au Québec, j'ai entendu des gens rapper en français, mais avec un accent québécois hyper fort. Moi, j'étais déjà dans une démarche d'apprendre le breton avec les vieux, d'essayer de bien prononcer, d'avoir un accent, ben voilà, être compris par les vieux et qu'eux, ils me comprennent, quoi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on apprend, parce qu'on entend plus ce breton-là autour de nous tous les jours, quoi. Et quand j'ai entendu les Québécois faire du rap avec un accent hyper prononcé, je me suis dit, mais en fait, on pourrait très bien faire du rap en breton, avec un breton avec un accent, et puis parler breton avec un accent, c'est pas forcément un truc de vieux, quoi. Et se dire que cet accent, il peut aider à la rythmique du rap, il peut, voilà, on peut en profiter, en fait, parce qu'on a une langue qui a un accent tonique très fort. Et puis après, bon, voilà, j'ai commencé à écrire des chansons aussi, avec une envie de chanter des choses autres que les chansons traditionnelles, même si c'est quelque chose que je continue à faire. Des fois, j'ai voilà, juste envie de faire complètement autre chose, quoi, puis d'être plus sur quelque chose d'actuel et de plus sensible, quoi. On ne se retrouve pas forcément dans ce que les histoires trad racontent, même si des fois il y a des résonances avec ce qui se passe dans le monde actuel, quoi. Mais ce n'est pas tout le temps et ce n'est pas toujours. Il y a des chansons trad par contre qui résonnent et il y en a une là, que je chante dans Bastard, c'est une chanson en français qui vient du pays gallo, qui est très connue. Que j'aime la chanter celle-là parce que du coup elle est en plein milieu du spectacle et en fait elle parle vraiment d'une fille mère qui abandonne son enfant et on prend pas le temps quand on chante les chansons trad d'introduire les chansons, souvent même l'accompagnement il aide pas à ce qu'on écoute les paroles, quoi. Quand il y a de la guitare, la batterie, machin, on sort complètement du récit, alors que c'est des chansons qui sont faites pour raconter une histoire, quoi. Par exemple, cette chanson-là, jeune fille de 15 ans, belle comme une rose.
Jeune fille de 15 ans, belle comme une rose.
Elle a eu un enfant, personne n'en est la cause.
Personne n'en est la cause.
Ben, quand ça fait une demi-heure qu'on parle de ce sujet-là, je pense que quand on écoute la chanson, on l'écoute différemment. Quand elle est chantée avec un rythme entraînant et puis avec des accords de guitare. Je pense à par exemple, au groupe Gwerz que j'adore, qui a vraiment toute la carrière d'Éric Marchand qui m'a donné envie de faire de la musique et puis qui m'a donné envie d'apprendre le breton et tout ça. Ben, cette chanson-là, par exemple, chantée par le groupe Gwerz, j'arrive pas à me concentrer sur les paroles. J'écoute la musique, mais j'écoute pas les paroles. Et j'avais envie là de dire une chanson a cappella sans musique, avoir une demi-heure pour lancer le sujet et puis de placer la chanson au milieu, quoi.
Si j'ai eu un enfant, comprenez ma détresse.
Je pense qu'en tant que chanteur, on devrait toujours garder l'idée qu'on raconte une histoire d'abord. C'est ce que j'ai envie d'exprimer là aussi dans ce spectacle-là, pour cette chanson-là, quoi. Je m'en fous qu'elle soit belle quand je la chante, j'ai envie que l'histoire, elle soit comprise et que la chanson soit au service du récit, quoi. Ça raconte aussi une autre époque. Elle a été composée à une autre époque et puis de se rendre compte que les choses n'ont pas tant que ça changé finalement, quoi. Voilà, c'est une enquête à travers le temps également par les chansons, quoi.
En voyant son enfant mené par les gendarmes. Prenez mon or et mon argent. Et rendez-moi ma fille, rendez-moi mon enfant.
Gilhomme Moué, gère de Zolaga.
Bastard, des histoires leur écho, un documentaire de Marine Chanourdi pour Transistor. Un grand merci à Christophe Lemaine, à Melren Lavillec, Thomas Cloarec et Catel Le Joncourt de Théâtre Piba, ainsi qu'à toute l'équipe de Bastard. Merci aussi à Aurélia Abramovici, directrice de la communication et de relations avec les publics au Théâtre de Cornouailles.
C'était Ribine, à retrouver sur radioévasion.net ou transistor.bzh.